Merci Gaston et toute son équipe, ces beaux chants qui nous réchauffent le cœur. Tellement de vérité dans ces paroles que nous avons chantées. Des choses aussi qui nous encouragent dans notre marche ici bas sur la terre. Alors je vous invite à prendre vos Bibles s'il vous plaît. Et trouver l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. C'est un texte que nous allons diviser. Vous allez voir à l'écran, première partie. Qui veut dire qu'il y a un deuxième qui s'en vient. Mais pour nous donner l'ensemble, la vue de l'ensemble, on va lire du verset 8 à 14, mais ce soir, on va traiter seulement le verset 8 et le verset 9. Alors, Éphésiens 5, verset 8, « Marche, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté, et lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et ce soir, comme d'habitude, nous continuons notre étude systématique de l'épître de Paul aux Éphésiens, qui renferme un thème qui est tellement précieux et d'une importance capitale, c'est-à-dire l'unité dans l'Église. Un thème qui était important pour les Éphésiens, et même en 2011, un thème qui est encore aujourd'hui valable pour les chrétiens de notre époque. Et nous sommes rendus dans la section pratique du livre, où Paul donne des exhortations aux chrétiens d'Éphèse. Ça, c'est le chapitre 4 à 6. Et ces exhortations sont basées sur la doctrine qu'il a exposée dans les chapitres 1 à 3. Et comme j'ai dit, nous allons focaliser alors ce soir sur les versets 8 et verset 9. Alors, voilà l'exhortation que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens. « Marchez comme des enfants de lumière. » Et ça, c'est une exhortation qu'il a adressée à tout authentique chrétien de Dieu à travers les âges. Le message n'a pas changé. Dans le temps de Paul, c'était « marcher comme les enfants de lumière ». Et 2000 ans encore, c'est la même chose. Et cette exhortation est adressée à nous ce soir. Marcher comme les enfants de lumière. Mais avant de considérer la signification de ce texte, et bien sûr comment le mettre en pratique, j'aimerais mettre le texte dans son contexte. Ce texte fait partie d'une série d'exhortations qui ont pour but de démontrer que celui ou celle qui a mis sa foi en Jésus-Christ est caractérisé par, premièrement, une nouvelle condition, décrite si bien dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est pourquoi, quand vous allez lire ce texte ici et dans d'autres textes, vous allez voir qu'en Éphésiens, Paul va utiliser souvent les termes comme « autrefois païen ».« Vous étiez sans Christ ». Mais maintenant, vous avez été rapprochés ainsi de suite. Et même notre texte pour ce soir, il va dire ceci, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Et qui dit nouvelle condition, dit aussi quoi? Nouveau comportement. Un nouveau style de vie. Éphésiens 4.1, pas besoin d'y tourner, nous dit ceci, que nous devions maintenant marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, nouvelle condition, nouveau comportement, et si vous voulez avoir un titre global qui englobe tout cela, marcher d'une manière qui est digne de cette vocation qui vous a été adressée. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire par marcher d'une manière digne? Tout simplement, c'est que le style de vie de celui qui se dit croyant devrait correspondre à ce que Dieu s'attend de ses enfants, de ceux qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ça, nous avons dans Romains 8 et le verset 29. Et quelqu'un a dit, c'est comme le mot digne dans l'original, c'est comme les deux plateau d'une balance, où nouvelle condition, c'est dans un plateau, et qui est en équilibre avec nouveau comportement. Et dans le pratico-pratique, alors, comment est-ce qu'on traduit cela, marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée? Mais tout au long du livre de Éphésiens, Paul va nous donner des indices. Dans un premier temps, si on veut marcher d'une manière digne, avoir un style de vie qui correspond à notre nouvelle condition, nouveau comportement, nous devrions premièrement marcher dans l'humilité. Ça, c'est Éphésiens 4, 2. Et ça, c'est à l'instar de Jésus-Christ lui-même qui a dit ceci, « Je suis doux et humble de cœur. » Alors, celui qui marche d'une manière digne, de cette vocation qui lui a été adressé, marche dans l'humilité. Deuxièmement, marcher d'une manière digne veut dire aussi marcher dans l'unité. Éphésiens 4, 3. Et ça, c'est tellement important parce que le Seigneur Jésus-Christ a prié même pour cela. Dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17 au verset 22, il a dit ceci, « Je leur ai donné la gloire en parlant de ses disciples, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Alors, si vous imaginez la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et dans cela, nous avons une unité extraordinaire. Alors, Paul dit aussi, « Celui qui marche d'une manière digne de cette vocation marche aussi dans l'unité. » Il recherche l'unité avec ses frères et avec ses sœurs. Marcher d'une manière digne veut dire aussi marcher dans la sainteté. Marcher à part, marcher de façon différente des non-croyants. Et là, nous avons cela dans Éphésiens chapitre 4, au verset 17 à 32. Nous avons vu cela, où l'apôtre Paul parlait de ceux qui dérobaient. Il dit maintenant qu'ils ne dérobent plus, mais qu'ils travaillent. Celui qui était caractérisé par les mensonges, il a dit non, maintenant vous êtes caractérisé par la vérité. Celui qui était méchant, il dit maintenant vous êtes caractérisé par la bonté. Différent. Marcher dans la sainteté. Comme Christ, la parole de Dieu nous dit en parlant de Christ, celui qui est saint, qui est séparé des pécheurs. Différent. Marcher d'une manière digne aussi veut dire marcher dans l'amour. Éphésiens 5, 2. Et nous avons le plus grand exemple de cela, Jésus-Christ lui-même, qui a dit ceci dans Jean 13, 34, 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors si je veux marcher d'une manière digne de cette nouvelle vocation, si je veux que nouvelle condition corresponde à un nouveau comportement, je dois marcher dans l'amour, avoir l'amour pour mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Marcher de manière digne aussi, c'est marcher dans la lumière. C'est notre texte pour ce soir qu'on va exposer un peu plus tard. Et vous savez, Dieu lui-même est la source de lumière. La Bible nous dit que Dieu, dans Jacques 1, 17, est le Père des lumières chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Marcher de manière digne aussi veut dire marcher avec sagesse. Éphésiens 5, 15 à 17. Comme Dieu seul qui est sage et qui aussi promet de nous donner la sagesse. Comme il dit dans Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse, qui demande à Dieu, tout simplement, qui donne et sans reproche. Et finalement, marcher de manière digne veut dire marcher dans la puissance de l'Esprit. Éphésiens 5, 18 jusqu'à 6, 20. À l'instar de Jésus-Christ qui a marché aussi dans la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14 nous dit ceci, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Alors, voilà l'exhortation, marcher d'une manière digne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et comme je dis encore, la question que nous devrions tous nous poser ce soir, c'est est-ce que je suis en train de marcher comme Christ a marché? Parce que dans tout ce que nous avons vu, marcher dans l'humilité, dans l'unité, dans la sainteté, dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse, dans la puissance d'esprit, Saint, on voit toutes ces choses en Christ. Et la question que nous devrions nous poser ce soir, et je vous pose aussi ce soir, sommes-nous en train de marcher comme Christ a marché? Vous savez, l'apôtre Paul a pu dire aux chrétiens de l'église à Corinthe, il a dit ceci, « Soyez mes imitateurs. Prenez-moi comme modèle. » Est-ce que Paul est un orgueilleux? Est-ce qu'il est arrogant? Est-ce qu'il est un fantasme? Le reste du texte explique pourquoi Paul a pu dire cela. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. Et quelle vérité! Paul est en train de dire, moi je m'aligne sur Jésus-Christ. Alors n'ayez pas peur. Vous pouvez vous aligner sur moi. Parce que moi je suis aligné sur Jésus-Christ. Ça me rappelle quand j'étais à la Barbade, j'étais dans les scouts. Et souvent, on voulait former une ligne qui était droite. Aller de gauche à droite. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un premier garçon au bout, mais tout le monde s'alignait sur lui. Et c'est sûr que s'il était bien placé, mais la ligne était droite. Mais parfois, il n'était pas à sa bonne place et la ligne était croche. Alors, Paul veut dire ici ce soir, moi je m'aligne sur Jésus-Christ et vous pouvez vous aligner sur moi parce que vous allez être aussi droite. Et vous savez, juste pour faire l'application, il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un modèle, qu'il soit bon ou mauvais, mais il y a une certaine puissance. Et nous qui sommes parents et qui maintenant sont rendus grands-parents, et si vous avez des enfants, vous savez que vous avez cette inquiétude avec qui vos enfants vont se tenir. Parce que très souvent, s'ils se tiennent avec des méchants garnements, vous savez qu'il va y avoir un impact aussi dans leur vie. Et nous avons besoin de bons modèles. Marcher comme Christ a marché. C'est le modèle par excellence. Paul s'est calqué sur le Christ. Il a pu dire à d'autres chrétiens, vous pouvez vous calquer sur moi parce que je suis le bon modèle. Et vous savez, dans le monde des sports, on utilise souvent dans les milieux défavorisés des grands vedettes de sport, justement pour encourager ces jeunes. Je me rappelle à l'époque de Michael Jordan. Et tous les jeunes disaient, « I want to be like Mike. » Je voulais être comme Michael Jordan parce que c'était justement un modèle, une figure pour eux autres. Mais dans l'Église, je peux vous dire aussi, ça prend des modèles. Et c'est un grand besoin. Est-ce que ce soir, je peux dire à quelqu'un, marchez comme moi je marche? Comme Paul a pu dire aussi, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Jésus-Christ. Et combien c'est important d'avoir ces modèles. Le monde a besoin de voir ces modèles. Les hommes et les femmes de Dieu, et encore plus, dans l'Église aussi, nous avons besoin de bons modèles que nous pouvons imiter et marcher comme ces personnes sont en train de marcher. Et même si vous êtes jeune, c'est sûr que les plus vieux devraient donner l'exemple. Mais Paul va dire aussi à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Et vous, les jeunes, vous pouvez aussi être dans votre comportement, votre façon de vivre, être un modèle aussi pour ceux qui vous entourent et même aussi pour les plus âgés. Et ma prière, c'est qu'il en soit ainsi. Alors, ça qui nous amène alors à notre texte pour ce soir. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Alors, pour comprendre la signification de ce texte, il y a un mot clé ici. C'est le mot lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on ne peut pas marcher dans la lumière si on ne comprend pas la signification justement du mot lumière. Et dans les Écritures, le mot lumière a deux significations. Dans un premier temps, le mot lumière a la signification de vérité, ce qui est véridique, la véracité. Je vous donnerai deux textes pour appuyer cela. Dans Romains 1, chapitre verset 21. Pas besoin de les tourner. Paul, il va parler ici des non-croyants. Il va dire ceci, en parlant des non-croyants. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Écoutez bien. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'absence de lumière. Ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et pourquoi? Parce qu'ils sont égarés dans leur pensée. Et ça que ça commence là. Ces personnes-là, ces non-croyants, ils ont cru au mensonge. Et quand on croit au mensonge, qu'est-ce qui arrive? On se trouve dans les ténèbres, au niveau de l'intellect. Alors, si vous voulez dire cela d'une façon positive, le contraire de cela, celui qui demeure dans la lumière, par un cœur intelligent, parce qu'il ne s'égare pas dans ses pensées, il reste dans la lumière. Vous voyez le contraste? Celui qui s'égare dans ses pensées, il y a l'intelligence obscurcie, plongée dans les ténèbres. Celui qui ne s'égare pas dans ses pensées, qui reste attaché, par contraste à la vérité, se trouve dans la lumière. Alors, lumière est synonyme avec vérité. Un autre texte aussi dans Éphésiens 4, 18, pour vous montrer que ce texte dit la même chose, Paul encore, en parlant des non-croyants, va dire ceci, « Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. » Encore, il revient à cette même idée. « Ils ont l'intelligence obscurcie dans les ténèbres. » Pas éclairé, il n'y a pas de lumière. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. La manque de connaissance, l'absence de la vérité. Alors, ignorance égale ténèbres. Alors, par contraste, vérité égale lumière. Alors, la lumière nous parle de la vérité. Et la lumière aussi a une deuxième signification, ça nous parle aussi de la sainteté. Dans notre texte, Romains 13, 12 et 13, dit ceci. Paul va donner une exhortation aux chrétiens. Il va leur dire, dépouillons-nous, enlevez donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et dans le verset qui suit, il va maintenant nous étaler, nous donner une description des œuvres des ténèbres. Paul exhorte les croyants de marcher en plein jour. Encore une fois, il nous ramène cette idée de lumière. Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, etc., etc. Et encore une fois, ici, nous avons ténèbres associées avec le mal, le péché, et en contraste, alors, la lumière est associée avec ce qui est le contraire, qui est la sainteté. Alors, ça, c'est la grande vérité qui est devant nous ce soir. La signification du mot lumière, vérité et sainteté. Et une vie qui honore Dieu. Une vie qui est digne de la vocation qui nous a été adressée, où nouvelles conditions riment avec nouveaux comportements. Une vie qui est vécue dans la lumière est obtenue. Non pas par l'observation extérieure des règles. La vie chrétienne, ce n'est pas un paquet de règles. Faites ceci, ne faites pas cela. Un peu comme les pharisiens. Mais la vie chrétienne, c'est la vérité. La vérité, la lumière, la vérité qui entre dans notre intellect, qui change nos pensées et qui sort de façon pratique par une marche dans la sainteté. Et ça, c'est la signification de ce texte, la lumière. La vérité de Dieu qui rentre dans la tête, qui descend dans le cœur et qui transforme la vie par une vie qui est caractérisée par la sainteté. Et j'ai appelé ça le duo dynamique. Et c'est par Batman et Robin, là. C'est sainteté, c'est vérité et la sainteté. Et vous savez, Jésus-Christ a mis les deux ensemble quand il a prié aussi pour ses disciples et aussi en même temps il a prié pour nous. Jean 17, 17, une prière qui est tellement remplie de belles choses. Il va dire à son Père, sanctifie-les par ta vérité. La sanctification, qu'il soit à part, qu'il soit différent, accomplie comment? Par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Vous savez aussi que le contraire est aussi vrai. On dit en anglais, il y a un dicton en anglais, garbage in, garbage out. Ça veut dire que si vous remplissez votre tête avec la cochonnerie, c'est la cochonnerie qui sort. Et si la vérité produit la sainteté, il est aussi vrai que l'ignorance, le mensonge, tout ce qui est contraire à la vérité va produire le mal, le péché et l'immoralité. Je veux vous revenir à ce texte que Jésus a cité, que je viens de citer dans Jean chapitre 17, parce qu'il y a une application pratique pour nous ici ce soir. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. On voit la relation. Une vie sainte, obtenue par la vérité de la parole de Dieu. Et là, il continue, ta parole est la vérité. Alors, la vérité est associée avec la lumière, et la lumière nous vient de la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important à saisir. Au niveau de notre intellect, nos pensées, c'est la parole de Dieu qui doit les renouveler pour produire une vie sainte. Et c'est tellement important. Quand vous êtes jeune et moins jeune et vous n'avez pas beaucoup de difficultés à mémoriser, ça reste ici parce qu'en vieillissant, c'est que souvent là, on perd le fil des choses. C'est comme ça l'Alzheimer commence, comme on dit. Mais combien c'est tellement important de pas seulement lire la parole de Dieu. Si vous avez lu votre Bible ce matin, mais c'est bien, mais c'est pas assez. La parole de Dieu qui sanctifie ta parole et la vérité doit rentrer dans notre tête, va renouveler l'intelligence, va descendre au cœur Et c'est ça que ça va produire justement les changements dans notre vie. Très important. Alors, je vous encourage à nous, vous tous et à moi-même, de prendre le temps, pas seulement de lire la parole de Dieu, mais de la mémoriser. Et quand on la mémorise et ça reste dans notre tête, on est capable de répéter le texte. Mais ça aussi, c'est une façon de la méditer, parce qu'on la rumine. Et finalement, cette parole-là change nos pensées, notre intellect, et ça produit justement l'effet désiré qui est la sainteté. Je vous donne juste deux textes pour cela. Psaume 119 va dire ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez la relation? La parole qui est serrée dans le cœur, ce n'est pas juste une lecture superficielle. C'est mémoriser, méditer. Et l'effet, c'est ne pas pécher. Une vie qui est sainte, la sainteté. Et Psaume 119, 130 va dire ceci. La révélation de tes paroles est claire. J'aime beaucoup la version anglaise qui dit ceci, « The entrance of thy word giveth light. » Quand la parole de Dieu rentre, quand ça rentre dans la tête, mais ça nous éclaire. Et la lumière va produire inévitablement la sainteté. Alors ça, c'est la signification de la lumière. Vérité associée avec la sainteté. J'aimerais juste maintenant parler de la source, la lumière. D'où ça vient cette lumière? Parce que nous sommes exhortés de marcher dans la lumière. Et dans un premier temps, nous avons Dieu qui est la source, la lumière. Psaume 27, 1 va dire ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Dans Michée 7, 8, le prophète va dire ceci, « Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et 1 Jean 1, 5 dit ceci, « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Alors, Dieu, source de la lumière. Et aussi Jésus-Christ. Dans toutes ces « je suis » que vous avez mémorisé sans doute, « je suis la porte, je suis le chemin », il y a une aussi qui Jésus va dire ceci, « je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Vous voyez? Mais il aura la lumière de la vie. Quel beau texte. Et finalement, nous avons aussi la parole de Dieu. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, Dieu le Père, une lumière. Dieu le Fils, une lumière. Sa parole aussi est une lumière. Et vous savez une chose aussi, vous et moi qui sommes sauvés? Nous sommes aussi la lumière. Colossiens 1, 13 nous dit ceci. Nous sommes des sujets du royaume de lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'était avant. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et si on est sorti des royaumes des ténèbres, nous nous trouvons maintenant dans le royaume de la lumière. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 14, Jésus a dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. » Et j'aime beaucoup le texte dans Philippiens 2, 15 et 16, où Paul va reprendre la même image. Il va dire ceci, en s'adressant aux croyants, « Soyez irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Écoutez ceci. Portant, quoi? La parole de vie. Car les mêmes choses sont là. Et vous voyez, vous brillez comme des flambeaux et vous portez la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez irréprochables et purs. La sainteté, la vérité. Et quelle grâce le Seigneur nous a accordé non seulement pour recevoir la lumière, mais aussi dans ce texte ici, refléter la lumière. Quelle grâce de recevoir cette lumière aussi, mais de la refléter dans un monde qui est ténébreux. Alors ça, c'est l'exhortation. On a vu l'introduction et le contexte, l'exhortation. Maintenant, nous allons regarder une application. Parce que ce texte est pratique. Et dans ce texte qui suit, de versets 8 à 14, Paul va nous donner cinq choses qui nous permettent de savoir si nous sommes en train de marcher comme les enfants de lumière. Qu'est-ce que ça implique dans le pratico-pratique? Ce soir, on aura le temps de voir seulement deux, et Dieu voulant, nous allons voir dans un deuxième temps les trois autres. Marcher comme des enfants de lumière. Alors, regardez votre texte encore au verset 8. Et dans cette application, nous avons, dans un premier temps, si vous voulez marcher comme des enfants de lumière, il y a une première chose qu'il faut faire, il faut être conscient du contraste. Il faut être conscient du contraste. Au verset 8, nous avons ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Ça, c'est le contraste. « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. » Avez-vous remarqué, autrefois, maintenant, vous étiez passé, vous êtes ténèbres, lumière. Tout un contraste. Et la position présente, tellement importante de ces yeux cela, du vrai croyant est diamétralement opposée à sa position avant sa conversion. Ce que j'appelle le grand écart entre le passé et son présent. Un était là et l'autre est là. Vous étiez, vous êtes. Ténèbres, lumière. Autrefois, maintenant. Et Paul va dire ceci, avant vous étiez ténèbres. Wow. Vous savez, les Écritures nous disent que nous étions dans les ténèbres. Ça, c'est vrai. Mais dans ce texte ici, Paul dit, vous étiez même ténèbres. C'est encore pire. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Mais j'aimerais vous suggérer que dans un premier temps, les ténèbres sont l'œuvre de Satan. Vous citez un texte dans Jean 8, 44. Ça pourrait vous surprendre, mais Jésus... Et l'application aussi, c'est assez frappant. Jésus va dire ceci en parlant de Satan. Il a été menteur, meurtrier plutôt, dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors, si Satan ne se tient pas dans la vérité, où est-ce qu'il se tient? Dans les ténèbres. Ça, c'est sûr. Alors, Satan est la source des ténèbres. D'ailleurs, on l'appelle le prince, justement, de ce monde de ténèbres. Et les ténèbres sont son œuvre. Et là, Jésus va continuer dans ce même texte, dans Jean 8, 44. Il va dire aux pharisiens, « Vous avez pour pain le diable. » Ouf! En plein visage, il les a frappés avec ça. « Et en plus de cela, vous voulez accomplir les désirs de votre pain. Vous voulez faire son œuvre. » C'est assez fort. Ça, c'est un non-croyant. Il le dit. Et ça, c'est un diagnostic du cœur qui est irrégénéré. Le non-croyant, même s'il porte une belle cravate, même s'il conduit un BMW, même s'il y a un, c'est pas quoi, là, château quelque part, son cœur irrégénéré, c'est un enfant de Satan, un enfant de rébellion, un fils de la gêne, un enfant des ténèbres. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? C'est que le non-croyant n'est pas simplement dans les ténèbres, mais quand il dit « vous voulez accomplir les désirs, vous voulez faire son œuvre », il est en train de dire que le non-croyant va contribuer. Il va participer de façon active dans l'œuvre de Satan, des ténèbres, parce que, à cause de sa nature pécheresse. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous êtes ténèbres. Vous n'êtes pas victime des ténèbres, mais vous contribuez activement C'est comme si quelqu'un paye sa dîme, paye votre dîme, justement, pour les œuvres des ténèbres. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Deuxièmement, et aussi, le non-croyant est contrôlé. Alors, il contribue à cause de sa nature pécheresse, mais aussi, il est contrôlé par Satan. Vous savez, souvent, on entend en anglais, « The devil made me do it ». C'est Satan qui m'a fait faire, on dit que Satan est de dos large. Des fois, c'est vrai, puis des fois, c'est pas vrai. Mais aussi, en étant dans le royaume de Satan, comme on vit dans Colossiens 1:13, on est dans ce royaume des ténèbres, on est dans son domaine et sous son autorité. Alors, le non-croyant aussi est contrôlé. Il contribue à l'œuvre des ténèbres et aussi contrôlé par le prince des ténèbres. Colossiens 1:13 nous dit ceci, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, l'autorité des ténèbres. Troisièmement, celui qui est ténèbre est exposé à la colère de Dieu. Ça, c'est Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Alors, ceux qui sont dans les ténèbres sont exposés à la colère de Dieu. Et quatrièmement, celui qui est ténèbre sera un jour inévitablement conduit à sa destinée éternelle des ténèbres. Il y a un texte dans Jean qui dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ceux qui restent dedans et qui ne se repentent pas, Dieu va leur donner exactement ce qu'ils ont désiré. Une éternité de ténèbres. Et ça, c'est grave. C'est Matthieu 8, 12. Le fils du royaume sera jeté dans les ténèbres, du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais, et ça c'est beau, hein? Vous étiez passé, maintenant au présent, il dit, vous êtes lumière. Le passé ténébreux est remplacé maintenant par un présent lumineux, si vous voulez. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Et encore une fois, quel beau texte. C'est bien d'être dans la lumière, on aime ça, mais c'est encore mieux d'être lumière dans le Seigneur. Et le parallèle est frappant, tellement frappant ici. Celui qui est maintenant lumière, comme celui qui est ténèbre, il va aussi contribuer à l'œuvre, mais pas à l'œuvre maintenant de Satan, il va contribuer à l'œuvre de Dieu. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la moyenne de la foi, etc. etc. Et 2:10 nous dit ici, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Quelle grâce! Vous et moi, maintenant, nous pouvons contribuer. Nous pouvons payer notre dîme, si vous voulez, mais à la bonne place et à la bonne personne. Deuxièmement, celui qui est lumière est aussi dans un royaume. Ténèbres dans le royaume de Satan, contrôlé par Satan. Lumière dans le royaume de lumière, contrôlé par le Seigneur Jésus-Christ. Encore Colossiens 1:13, nous avons été transportés justement de la puissance des ténèbres et Dieu nous a amenés dans le royaume du Fils bien-aimé, où Jésus-Christ est le roi. Et j'espère qu'il règne aussi dans votre vie comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui est lumière n'est plus exposé maintenant à la colère de Dieu. Vous étiez. Mais maintenant, celui qui est lumière jouit d'une communion intime avec Dieu. Quel beau texte dans 1 Jean 1:7. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quel beau texte. Une communion au lieu de la colère. Et quatrièmement, celui qui est lumière sera un jour conduit à la lumière éternelle, la nouvelle Jérusalem. Avec ça, ça fait sauter des neurones. Hein? On va être là dans la lumière éternelle. Apocalypse 21, 23 nous dit ceci, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Et en plus de cela, nous allons aussi participer à cette illumination. On va être illuminés, on va briller. Je vous donne le texte, Daniel 12, 2. Par les deux résurrections, ceux qui sont ressuscités pour la vie éternelle et ceux qui sont ressuscités pour l'opprobre et la honte, etc. Et là, le verset 3, Daniel 12, 3, nous dit ceci. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront été enseignés la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Wow! On va briller dans cette lumière éternelle. Et ce soir, c'est tellement important d'arrêter et rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait. J'aime beaucoup le texte dans Jean chapitre 9, pas besoin d'y tourner, mais il y avait un aveugle né qui a été, le Seigneur l'avait guéri. Et là, les pharisiens sont là, ils voulaient savoir comment est-ce qu'il était guéri ainsi de suite. Le gars, il a dit, écoute, je ne sais pas, là. C'est-tu un prophète? Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est ça qui compte. Et ça, c'est le miracle pour nous ce soir, qui était dans les ténèbres. Nous pouvons dire ce soir, gloire à Dieu, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. J'aime beaucoup le texte dans 2 Corinthiens 4, 6, quand Dieu a dit ceci, « La lumière brillera du sein des ténèbres. » Et ça, c'est le jour où vous avez été sauvés, parce que nos corps étaient plongés dans l'obscurité. Et Dieu, dans sa grâce, un jour a prononcé ses paroles, comme il a fait lors de la création. Il a dit, « La lumière brillera au sein des ténèbres. » Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs, le texte dit, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et là, nous avons vu pour la première fois la beauté de Jésus-Christ. Et nous avons dit, c'est ça que je veux. Je vois maintenant. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Et Christ, maintenant, ça a du sens. Alors, bénissons le Seigneur pour cela. Et finalement, je termine avec ceci. Conscient du contraste, mais aussi soyons conscients des caractéristiques. Si vous voulez marcher comme les enfants de lumière, il faut être conscient des caractéristiques. Regardez le verset 9 dans notre texte. L'apôtre Paul va dire ceci. « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Ce n'est pas assez de dire « j'aime Jésus ». On lève les mains là, j'aime Jésus, j'aime les chrétiens, j'aime les cantiques. Paul va dire ceci, celui qui marche comme un enfant de lumière est caractérisé par du fruit. Du fruit qui est tangible, identifiable et qui démontre que c'est du vrai de vrai, comme on dit. Le fruit de la lumière. Tu marches comme un enfant de lumière, mais tu vas produire ces fruits qui sont là. La bonté, la justice et la vérité. Jésus a dit ceci dans Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et dans 1 Jean 9, 10, Jésus a dit ceci, l'apôtre Paul a dit, Jean a dit ceci, « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Alors, c'est clair, si on marche comme un enfant de lumière, on va porter du fruit. Aussi petit soit-il, il va y avoir du fruit. Et s'il n'y en a pas du tout, mais là, on devrait commencer à se poser des questions. Et rapidement, je vous donne maintenant les trois fruits. Dans un premier temps, il y a un fruit de bonté, ce que le texte dit. Et ça, c'est en rapport avec les autres. Dans le texte original, il y a trois mots différents pour le mot « bon ». Et Paul va choisir un mot parmi les trois. Il aurait pu utiliser les autres, mais il a choisi un. Et ce mot veut dire qui est excellent moralement, qui est bon par nature, qui est bon dans son effet, dans son impact sur les autres. Et dans la pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui est bon est caractérisé par un esprit de service, prêt à faire des sacrifices pour le bien-être des autres. Un texte dans 1 Thessaloniciens 5:15, Paul va dire ceci: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, ce serait un fruit des ténèbres, mais recherchez toujours le bien, ça c'est notre mot, soit entre vous, entre les frères et les sœurs, soit envers tous. Alors celui qui marche dans la lumière, il va porter du fruit caractérisé par la bonté. Entre les frères et les sœurs, la bonté envers les autres, service, sacrifice. Deuxièmement, celui qui est lumière porte aussi le fruit de justice. Et cela maintenant est en relation avec Dieu. Bonté en relation avec les autres, mais la justice est en relation avec Dieu. Et il y a deux volets à ce mot-là, justice. Dans un premier temps, nous avons une justice qui nous est imputée. Quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a imputé sa justice. Philippiens 3, 9, Paul va dire ceci: je vais être trouvé en Christ, non avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors Dieu nous déclare juste, mais cette justice imputée devrait aussi être visible dans ce que j'appelle la justice pratiquée, une vie de sainteté. 1 Jean 2, 29 nous dit ceci: si nous savons qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et ça, c'était le témoignage de Job. Dieu a pu dire à Job, à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et juste, craignant Dieu et se détournant du mal. Sa relation avec Dieu démontrait justement la justice qu'il avait reçue de Dieu. Et finalement, troisièmement, celui qui est dans la lumière porte le fruit de vérité. Le fruit de vérité. Et ça, c'est une relation avec soi-même. Un fruit qui part de honnêteté, d'intégrité, de véracité, de transparence. Et combien il nous est facile de nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Quand on s'écarte de la lumière et la vérité de la parole de Dieu, on s'expose justement à des faux raisonnements. Et combien il est triste qu'en n'étant pas honnête avec nous-mêmes, nous pouvons ressembler parfois à ceux qui sont ténèbres et qui sont caractérisés par l'hypocrisie, la tromperie et le mensonge. Alors, celui qui marche dans la lumière, c'est un homme, une femme, jeune homme, jeune femme, qui est intègre, mais envers lui-même. Et je termine avec une prière. Le psalmiste, il était conscient de cela. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Psaume 139, 23 et 24? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et combien c'est important de laisser la parole de Dieu rentrer et pénétrer et transformer pour porter du fruit envers les autres, envers Dieu et surtout aussi envers nous-mêmes. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Quel beau texte qui nous rappelle encore une fois toute la richesse que tu nous as réservée en Christ. Cette exhortation de marcher comme lui-même a marché. Seigneur, donne-nous cette grâce qui vient seulement de toi. Aide-nous aussi de nous rappeler d'où nous sommes venus, des ténèbres. Et tu nous as transportés dans le royaume de ton admirable lumière, de ton Fils. que nous puissions garder nos yeux sur le Christ qui lui-même a donné le modèle. Dans notre faiblesse, Seigneur, nous crions à toi. Que ce texte alors nous fasse du bien et qu'elle porte fruit dans nos vies pour ta gloire. Amen.